Radio Okapi encourage les jeunes talents congolais. Auteurs, compositeurs, interprètes, une adresse mail est à votre disposition. musique@radiokapi.net. Envoyez vos chansons. Après sélection, elles feront peut-être partie de la playlist ou d'une émission de Radio Okapi. Faites-vous connaître, des millions d'auditeurs vont écouter votre musique. musique@radiokapi.net. Allez-y, on vous attend.
Des têtes d'érosion sont visibles dans plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa et même de l'intérieur du pays. Il y a des ouvrages aussi d'intérêt communautaire tels que les écoles et les routes qui ne sont pas épargnées par ces érosions. Et bien souvent, des moyens matériels et financiers font défaut pour lutter contre ces érosions qui agglutissent parfois des maisons qui des fois coupent même le route. Et il y a des techniques pour lutter contre ces érosion, c'est ce qu'on va découvrir avec notre invité Guy Bungu-Bechi, qui est ingénieur agronome et directeur de l'ONG Agir Alternatif. Vous êtes intéressé par le sujet, n'hésitez pas, il faut le faire dès maintenant. Si vous habitez un quartier où il y a beaucoup de têtes d'érosion, ou bien vous êtes concerné par ces problèmes d'érosion, le numéro d'appel c'est les 081 890 63 94. Il y a aussi le numéro SMS, c'est le 081 711 50 01. Ingénieur Guy Bungu-Bechi, avant de parler de tout ce qui peut avoir comme technique de lutte contre les érosions, vous voulez d'abord nous expliquer qu'est-ce qui est à la base des érosions?
Plusieurs phénomènes naturels ou causés par l'homme sont à l'origine de ce phénomène d'érosion. Nous pouvons énumérer parmi les facteurs naturels, d'abord l'écoulement dû à des eaux de pluie et aussi le phénomène des vents et qui sont accentués. Mais le phénomène des vents, pas chez nous, dans nos conditions, c'est plutôt rare. On les rencontre dans les zones désertiques italiennes. Chez nous, c'est surtout dû à l'écoulement des eaux de pluie et aussi à la dénudation des sols qui peut, comme vous le savez, se faire soit de façon naturelle, la poudre peut tomber dans une savane, brûler la savane, le sol se trouve ainsi dénudé. Quand c'est sur une pente, les précipitations par la suite peuvent causer l'érosion. Mais l'érosion que nous déplorons le plus ici est plutôt un phénomène causé par l'action de l'homme. Lors d'ouverture des routes, lors de travaux agricoles, lors des constructions d'infrastructures, quand on ne prend pas des dispositions qui conviennent pour canaliser les eaux de pluie, les eaux usées, eh bien, ces eaux finissent par créer les sols et nous avons l'apparition du phénomène d'érosion. Voilà, en fait, d'une manière résumée, ce qui est à la base de l'érosion.
Et est-ce qu'il y a moyen de prévenir ces érosions pour éviter tout ce que cela a comme conséquence? Vous avez parlé par exemple pour le problème de eaux qui sont par canalisées. Bon, si on habite dans un coin tel que celui-là, qu'est-ce qu'on peut bien faire pour prévenir par exemple les érosions?
Oui, il y a tout à fait moyen de prévenir ce phénomène d'érosion. Prenons les cas des érosions urbaines. Lors du lotissement d'un terrain, lors de l'aménagement même d'un terrain pour une utilisation quelconque, on doit tenir compte, surtout dans les conditions qui sont les nôtres, où les précipitations sont abondantes, surtout en certaines périodes de l'année, on doit tenir compte absolument des eaux de pluie, on doit les canaliser. Il y a moyen de les prévenir et il s'agit, entre autres, de la création des canaux, des égouts pour l'évacuation des eaux, des dispositions pour briser la vitesse de l'écoulement des eaux. Oui. Autant de dispositions qu'on peut prendre des trous de rétention des eaux de pluie. Il y a autant de dispositions qu'on peut prendre pour éviter ce phénomène d'érosion. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. On se rend compte que l'érosion est là, mais on aurait pu prévenir. On s'attelle plutôt à guérir, ce qui est d'un coût exorbitant et parfois on n'y arrive pas.
Ben vous dites malheureusement c'est ce qui est souvent le cas, c'est-à-dire que du jour au lendemain on voit comment dans certains coins du pays ces têtes d'érosion prennent de l'ampleur. Alors lorsqu'on en est encore au début là, qu'est-ce qu'on peut bien faire pour éviter que ces têtes d'érosion continuent de plus en plus à prendre de l'espace?
Ce qu'il faut, c'est dès qu'un terrain est dénudé pour une utilisation quelconque,
oui,
dès qu'un terrain est couvert par des habitations, savoir que les eaux de pluie, à un moment, vont s'amasser et vont chercher à couler et vont prendre de plus en plus de vitesse, d'autant que, puisque la pente sera grande, et vont entraîner sur leur parcours des particules de sol et le départ, l'exportation, si vous voulez, de ces particules de sol, va laisser un vide, c'est ça l'érosion. Alors, les dispositions à prendre doivent être à plusieurs niveaux. D'abord, il faut, autant qu'on crée une route, par exemple, autant qu'on construit une maison, prendre au même moment et dans la même proportion des dispositions pour maîtriser, canaliser les eaux d'écoulement, jusque à les amener, par exemple, dans une rivière et prendre des dispositions pour que, au bas de la vallée, dans la rivière, ces eaux ne commencent pas là même à creuser leur trou. Et quand on a pris ces dispositions, il faut aussi veiller à l'entretien de ces ouvrages de canalisation des eaux pour veiller à ce qu'ils soient à même de continuer à jouer le rôle pour lequel on les a installés. Il peut arriver aussi, tel que dans les villes, que par l'accroissement de la population, ou par l'évolution socio-économique ou autre, un terrain qui avait été affecté à tel usage soit affecté à un autre usage, prendre également des mesures de sorte que la prise en charge des eaux de ruissellement ne soit pas oubliée. C'est essentiel pour prévenir les érosions. Au cas où la surface couverte est augmentée, là aussi il faut prendre des dispositions pour que le canon soit dimensionnée en sorte que elle ne soit pas, il ne soit pas débordé en cas de pluie abondante. Voilà.
Ah, voilà. Nous parlons de comment lutter contre les érosions. Si donc vous venez de vous rejoindre à nous sur la fréquence de la paix, vous êtes en train de suivre le magazine Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. On a comme invité pour ce sujet Guy Bungubechi, qui est ingénieur agronome et directeur de l'ONG Agir Alternatif. Vous voulez poser des questions, vous voulez réagir, vous pouvez appeler au 081 890 63 94. Vous pouvez aussi faire un SMS au 081 711 50 01. Nous avons déjà Doudou Kadima qui nous appelle de Mbujimaï et Junior qui nous appelle de Kalemi.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30 heure de Kinshasa sur Radio Capi.
Doudou Kadima, vous êtes à Mbujimaï, dans la province du Kasaï oriental. Bonjour Doudou.
Bonjour Marcel et bon début de week-end à notre invité.
On vous écoute Doudou.
Ok, ma première question est de savoir, est-ce que notre invité peut nous faire la différence qui existe entre l'érosion et les ravins? En plus, il peut nous faire encore, il peut nous différencier de plusieurs...
Doudou, allez-y, vous êtes...
Oui.
Il y a un problème de liaison avec Doudou. Essayez de vous déplacer. On va vous retrouver. Il y a un problème de liaison avec vous. On n'arrive pas très, très bien vous saisir. Essayez de vous déplacer un petit moment et puis on va vous retrouver. Il est temps pour nous d'aller à Kalemi dans le Katanga pour retrouver Junior. Bonjour Junior.
Bonjour Marcel.
On vous écoute Junior.
Bon, c'est Junior Kassim depuis Kalemi, l'agent du CERCOM. J'ai trois petites préoccupations.
Oui.
La première, c'est de savoir d'abord, avec une précision, Kalemi, c'est un millier vraiment qui a beaucoup d'érosion, compte tenu aussi de sa situation montagneuse. La première question, c'est de savoir quelle est la différence qui existe entre une érosion et un éboulement. Et la deuxième question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire vraiment concrètement pour éviter une érosion. Et la troisième question, c'est de savoir quel est vraiment l'élément qui est à la base, donc l'élément focal ou le point focal qui est à la base d'une érosion. C'était ça mes préoccupations, merci.
Merci à vous, Junior, d'avoir appelé de Calémi, dans le Katanga. On va tenter de retrouver Doudou Kadima. On espère que cette fois-ci, ça va bien marcher. Doudou Kadima, vous êtes à nouveau en ligne?
Oui, je suis en ligne. Maintenant, ça va?
Ah, allez-y, c'est bon.
Ok, je disais que ma première question est de savoir quelle est la différence qui existe entre l'érosion et les ravins.
Oui.
Et puis ma deuxième question est de savoir, parmi les causes que notre invité vient de citer,
bon, décidément, Doudou Kadima n'a pas beaucoup de chance aujourd'hui, mais sa première question, on l'a bien saisie. C'était la différence entre une érosion et un ravin. L'invité va répondre tout à l'heure. Merci, Doudou Kadima, d'avoir appelé Mbujimayi au Kasaï oriental. Guy Bungubechi, vous pouvez déjà répondre à cette question de Doudou Kadima qui voulait savoir la différence entre une érosion et un ravin.
Une érosion est un déplacement des matériaux qui constituent la couche superficielle du sol. On distingue aussi en géologie des érosions qui peuvent se produire en profondeur, mais je suppose que ce qui nous concerne ici, c'est le phénomène qui menace nos habitations, nos routes et nos autres infrastructures. Le ravin est une des manifestations visibles du phénomène d'érosion. Nous avons dit qu'une érosion, c'est un déplacement de matériaux qui sont emmenés par plusieurs causes d'un endroit à un autre et qui défigurent ainsi la surface du sol. Le ravin est une manifestation de ce phénomène qui se remarque par un creusement. Ça se passe le plus souvent sur le flanc des vallées ou des montagnes, mais ça peut également arriver sur une surface plane. Les ravins de ce donc ce trou que nous voyons. Mais l'érosion peut se manifester également par la création, là où la matière s'entasse, d'un dépôt. Un dépôt important peut être créé ainsi par des phénomènes d'érosion, des matériaux qui sont emportés d'un endroit, laissant un trou que nous appelons alors ravin, vers un autre endroit où ils peuvent créer des monticules, peuvent combler un autre ravin, combler une vallée, ainsi de suite.
Voilà, on va rester... Allez-y.
Et parmi les causes telles que j'ai semblé comprendre...
Avant de répondre à la deuxième question de Doudou, mais il avait d'abord cette première question de on va d'abord sur le plan de différence, répondre à cette question de Junior, lui qui a cherché à savoir la différence entre une érosion et un éboulement.
L'éboulement est aussi une des manifestations de l'érosion. Mais là, il ne s'agit pas d'un déplacement graduel des matériels tel que cela se passe dans l'érosion, par exemple, lors du ravinement causé par les eaux de pluie. Le boulement, c'est un phénomène qui se produit brusquement. Les matériaux sont, chutent par un phénomène gravitaire du fait qu'ils ont perdu leur équilibre. Cela se passe, par exemple, quand les eaux érode un flanc de montagne ou un flanc de vallée, eh bien, à un moment, il y a une rupture, une partie de matériaux qui constituait le flanc des ravins, de la vallée, peut soudain tomber en chute et se retrouver plusieurs mètres ou plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de mètres plus bas. Ce phénomène brutal, c'est ça qu'on appelle éboulement. Il s'agit ici, bien sûr, d'éboulement des sols. Je ne dirais pas qu'il y a une différence avec les phénomènes d'érosion. C'est une des manifestations, une des façons dont l'érosion se manifeste précisément. Il y a le ravin, il y a l'éboulement, il y a d'autres manifestations également du phénomène d'érosion.
Voilà. Alors pour revenir aux causes, effectivement, Doudou, c'est vrai que la liaison n'était pas bonne, mais vous avez compris, c'était par rapport aux causes de qu'est-ce qui peut être la base de d'une érosion. Vous en avez déjà parlé, mais vous pouvez revenir. Et c'est aussi la deuxième question de Junior qui a appelé de Calémie. Et lui, il a cherché à savoir c'est quoi l'élément focal, c'est quoi la cause majeure d'une érosion.
Il y a plusieurs causes, mais pour ne pas nous éparpiller, revenons sur ce qui nous affecte le plus souvent. La cause première, c'est l'écoulement des eaux de pluie. Quand l'eau tombe, eh bien, quand la pluie tombe, une partie des eaux de pluie est d'abord absorbée par le sol et elle s'infiltre donc dans le sol. La quantité qui s'infiltre dépend évidemment de la nature du sol. Quand le sol est plein d'eau, et que l'eau ne peut plus être infiltrée, ne peut plus être absorbée par la couche superficielle du sol, oui. Et bien l'eau se met à stagner. Quand la quantité devient plus importante, c'est-à-dire au fur et à mesure que la pluie continue, eh bien cette eau cherche à s'écouler vers le côté le plus bas de la pente. Il y a comme ça plusieurs points un terrain qui subit une pluie, où les eaux s'écoulent, ces eaux finissent par se rencontrer, se joindre au fur et à mesure que la pente descend. Elles prennent une plus grande vitesse et la masse d'eau qui coule devient plus importante. Et nous partons à ce moment-là d'un écoulement très faible, laminaire, à un écoulement turbinaire qui a pour effet, entre autres, d'emporter le matériau qui constitue le sol. Dans les sables et qu'on sort, sont emportés et même des rochers peuvent être emportés. Alors, ça c'est le phénomène tel qu'il se passe.
Oui.
Mais qu'est-ce qui est à la base de ce phénomène dans les milieux où nous sommes? Eh bien, c'est que les dispositions ne sont souvent pas suffisamment prises pour empêcher que cet écoulement ne devienne important et n'affecte des sols qui sont friables, des sols qui sont fragile. Et ce qui fait en plus que ce phénomène prenne l'ampleur, c'est par exemple les constructions.
Oui.
Là où les eaux devaient s'infiltrer, quand nous construisons, nous mettons sur nos maisons des tôles ou d'autres dispositions pour que la maison soit ainsi protégée de cette intempérie, eh bien, à cet endroit-là, il n'y a plus du tout infiltration d'eau dans le sol. Cette eau va chercher à s'écouler autrement. Ça fait une grande superficie qui pouvait ainsi absorber de l'eau, qui ne l'absorbait pas, et qui, au contraire, déverse cette eau amassée juste à côté de la maison. Et qu'est-ce qui se passe? Ça remplit la parcelle et ça se retrouve dans la rue. Je voudrais ici amener cette explication à établir également les responsabilités pour savoir, ben, ça se passe de cette manière, qui doit prendre des précautions.
Voilà, on va poursuivre avec vous par rapport à cet aspect. Il est temps pour nous d'accueillir deux auditeurs qui sont en ligne. Il y a Gloire qui nous appelle de Kindu dans les Maniema et Lambert qui est à Kananga au Kasaï occidental. Le numéro des contacts, si vous êtes aussi intéressé par ce sujet sur comment lutter contre les érosions, appelez au 081-890-6094. On prend Gloire qui nous appelle de Kindu. Bonjour Gloire.
Bonjour les téléjournalistes et bonjour à tous les auditeurs de la radio KP.
On vous écoute.
Je salue d'abord la pertinence des interventions de notre invité. Et en plus de ça, j'avais trois questions à les poser.
Allez-y.
La première est-elle de savoir, y a-t-il une relation entre l'érosion et la fertilité du sol? Et ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est de savoir, entre l'érosion anthropique, c'est-à-dire celle qui est liée aux différentes activités de l'homme, et l'érosion naturelle, laquelle est la plus dangereuse et pourquoi? La troisième et dernière question est celle de savoir quels sont les facteurs de l'érosion anthropique.
La troisième question, quels sont les facteurs?
Quels sont les facteurs de l'érosion hydraulique?
Et la première question, vous avez dit la relation entre l'érosion et...
Y a-t-il une relation entre la fertilité, entre l'érosion et la fertilité du sol? Ça, c'était ma première question.
Voilà, c'est bien compris, Gloire, et merci d'avoir appelé des Kindu dans le Maniema. Lambert, vous êtes à Kananga au Kasaï occidental. Bonjour Lambert.
Bonjour, c'est Albert Mwananga de Kananga, ce n'est pas Lambert.
Ah, c'est Albert Mwananga, d'accord. Allez-y.
Oui.
C'est quoi votre question, Albert?
Je vais poser à notre invité. La première, c'est de savoir, j'aimerais que l'invité nous assure avec les statistiques des têtes d'érosion qui menacent l'ensemble du pays. Ça, c'est la première question.
Oui.
La deuxième, à qui revient la grande responsabilité pour lutter contre l'érosion? Parce que d'autres pensent que la population doit s'assumer, mais quand on voit la population est déjà au bout parce qu'une tête d'érosion qui menace d'une manière là exagérée, et donc une contrée quelconque, et la population n'arrive pas vraiment à mettre fin à cette à l'avancement de cette érosion, qu'est-ce qu'on peut faire? Et à qui revient la grande responsabilité donc pour lutter contre ces genres d'érosion là?
Merci Albert Mwananga d'avoir appelé de Kananga. Donc on fait signe qu'il y a Clément qui appelle de Kalemi au Katanga. Clément, bonjour.
Bonjour Marcel, c'est toujours Kayumba Clément, dit student de Kalemi au Katanga. Moi je voulais demander comme les milieux de Kalemi ici, il y a beaucoup d'érosion au fait. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire pour lutter contre les érosions dans cette ville de Kalemi? Parce que lors des pluies, il y a toujours eu des réseaux. C'est pourquoi je voulais demander pour que l'invité puisse nous dire comment lutter contre les érosions. Parce que il y a des canaux qui sont construits, mais qui ne font rien. C'est pourquoi je voulais demander que l'invité puisse réagir à propos de cette question. Merci beaucoup.
Merci Clément d'avoir appelé du Kalemi au Katanga. On retrouve notre invité Guy Bungubechi, ingénieur agronome et directeur de l'ONG Agir Alternatif. Alors vous êtes en train de parler, d'ailleurs c'est une des questions qui est revenue avec un des auditeurs qui vient d'appeler tout à l'heure sur la part de responsabilité. On vous écoute Guy Bungubechi.
La part de responsabilité est partagée.
Oui.
Chacun devrait être en mesure de gérer ses eaux dans sa parcelle. Je parle de gérer, je ne parle pas de contenir ses eaux dans sa parcelle.
Oui.
Ça serait irréaliste. Gérer ses eaux signifie quand on construit une maison, quand on construit une école, quand on construit un ouvrage quelconque, il faut prendre des dispositions pour que les eaux des pluies soient canalisées vers un ouvrage qui devrait les collecter et les amener en dehors de la ville de manière à ce que ces eaux ne causent pas des ravages ni dans les autres ouvrages, ni dans les parcelles voisines. Vous comprenez que dès lors que chaque parcelle doit amener ses eaux de pluie en dehors, disons chacun doit amener ses eaux de pluie en dehors de sa parcelle, en dehors de la construction dont il est responsable, ça se déversera forcément sur la voie publique.
Oui.
Et nous parlons de la voie publique, la responsabilité de l'État apparaît immédiatement. L'État devrait prendre des dispositions avant même de laisser un quartier être habité, être construit, être habité. C'est à l'État qui revient la responsabilité d'installer, d'entretenir et de veiller au bon fonctionnement d'ouvrages destinés à l'évacuation des eaux de pluie. Et l'État a aussi la responsabilité de veiller à ce que chacun, là où il est installé, amène ses eaux dans cet ouvrage. Si l'État devait prendre de telles dispositions, je pense que nous ne déplorerons pas ce genre de manifestations, de phénomènes d'érosion. L'État a aussi la responsabilité, je l'ai dit tout à l'heure, de veiller, d'entretenir ces équipements. Mais il ne suffit pas de les installer, il faut voir aussi comment ils se comportent, est-ce qu'ils sont devenus trop petits, est-ce que les gens les utilisent mal en les prenant par exemple pour des poubelles publiques. En fait, en un mot, le premier responsable de ce phénomène qui est général et qui ne se limite pas que dans la maison, dans la parcelle ou dans la concession d'un individu ou d'un groupe d'individus, et bien là, c'est le domaine de l'État. Le premier responsable, c'est l'État.
Voilà, on va revenir alors aux questions posées par Gloire qui a demandé, y a-t-il une relation entre l'érosion et la fertilité du sol?
Ben, il n'y a pas de relation directe. Tout sol peut être susceptible à l'érosion. C'est vrai que le sol qu'on veut fertile sont des sols qui doivent avoir une certaine friabilité, qui ne doivent pas être des sols d'une consistance très dure, très ferme, pour employer les termes tels que chacun puisse le comprendre, résiste mieux à l'érosion. Mais, écoutez, dans ce genre de sol également, l'érosion peut s'installer. Il n'y a donc pas de relation directe entre la fertilité du sol et le phénomène d'érosion. Tout sol est susceptible à l'érosion. Même dans la ville telle que Matadi, où il y a beaucoup plus de rochers que de sols meubles, de sols friables, on constate le phénomène d'érosion. Voilà.
Il a également posé la question de savoir entre une érosion naturelle et une érosion liée aux activités de l'homme, c'est laquelle de ces deux érosions a plus de conséquences sur l'environnement?
Je dirais, pour ce qui concerne l'érosion qui menace nos villes, qui menace nos ouvrages, enfin que c'est l'érosion causée par l'homme qui est la plus dangereuse. Pour la simple raison que d'abord, on peut prévenir cette type d'érosion et éviter qu'elle ne se produise. Et ensuite, c'est des érosions que nous causons par nous-mêmes et qui nous nuisent nous-mêmes. Nous sommes à la fois acteurs et victimes. C'est le genre enfin, je ne voudrais pas dire que c'est bête de subir ce genre de phénomène, mais on peut vraiment arriver à éviter cela. Mais quant aux érosions naturelles,
oui.
Eh bien, si elles nous gênent, ben, nous n'avons que à éviter. Il y a des endroits où on peut éviter de construire une route, on peut éviter de construire une maison ou d'installer une ville, parce que le phénomène d'érosion s'est déjà installé. À ce moment, ben, on peut tout simplement les éviter. Tandis que l'érosion de l'homme, ben, on peut les éviter en faisant en sorte qu'ils ne se produisent pas. Voilà ce que je peux répondre à M. Gouard de Kili. Quand l'érosion naturelle est installée, ben, on évite en ces salles-là ou en installant ses ouvrages, ses équipements ailleurs.
Alors, les auditeurs sont également revenus sur une préoccupation essentielle, c'est-à-dire alors comment faire concrètement pour stopper par exemple une érosion. C'est vrai, vous avez parlé des causes, mais voilà, quand le fait, les conséquences sont déjà là. Et comment on peut faire pour stopper une érosion concrètement? Qu'est-ce qu'on peut bien faire?
Ben, quand une érosion s'est déjà installée, c'est-à-dire le plus souvent les érosions dues au ruissellement des eaux de pluie, quand les ravins est là, eh bien, il y a des dispositions qu'on peut prendre.
Oui.
Et cela dépend de l'état de l'avancement du phénomène d'érosion. Quand nous ne sommes qu'au début, eh bien, il faut éviter d'abord que le phénomène d'érosion ne soit de nouveau alimenté. Et il est alimenté, nous l'avons dit, par les eaux de pluie. Il faut arriver à canaliser les eaux de pluie et à faire en sorte qu'ils ne viennent plus continuer leur creusement là où les dangers s'est déjà manifesté. Et ça se fait par la construction, d'abord par une gestion responsable des eaux de pluie, que les eaux de pluie qui sortent de nos maisons, de nos parcelles, se déversent dans l'ouvrage qui est installé à cet effet.
Oui.
Et là signifie aussi que si un tel ouvrage n'est pas là, eh bien, il faut l'installer rapidement. Cela signifie aussi, quand le phénomène d'érosion est déjà installé, qu'il faut arriver à couvrir ce trou qui défigure notre avenue, notre quartier. Il faut arriver à couvrir ce trou. Et le faire n'est aisé que quand on s'y prend relativement tôt. Tandis que quand nous avons déjà un trou béant issu du déplacement des tonnes de matériaux, des tonnes de sol, eh bien là, ça devient un problème qui nécessite de gros moyens. Et à ce niveau, ben, il faut une réelle volonté politique pour y arriver. Je voudrais résumer pour dire à M. Gouard de Kindou que, pas M. Gouard de Kindou, mais l'auditeur qui a posé la question, quand l'érosion est déjà installée, il faut d'abord arriver à éviter qu'il ne soit alimenté. Donc il faut arriver à canaliser, quand on a vu le danger, et on a même vu déjà les conséquences du danger, arriver à éviter que le creusement ne continue. Et ensuite, il faut arriver à installer ces ouvrages et veiller à ce qu'ils jouent leur rôle.
Alors, c'était la question de Clément hein, qui a parlé des calémies où d'après lui, il y a beaucoup de têtes d'érosion. Mais on laisse également entendre que c'est bon de planter le vétiver pour stopper, par exemple, le glissement du sol.
J'allais y arriver.
Oui.
Monsieur Clément nous dit qu'il y a beaucoup d'érosion à Calémie et que les canaux ne font rien.
Oui.
Mais L'entretien consiste également à éviter que le sol autour des canaux ne soit eux-mêmes emporté. Il arrive qu'on installe un bel ouvrage pour transporter les eaux de pluie, les eaux usées, et qu'à un moment, un phénomène de déchaussement se passe, c'est-à-dire que le sol autour de l'ouvrage ne soit emporté, l'ouvrage se retrouve ainsi en surplomb, et à ce moment-là, il ne jouera plus du tout son rôle. Parce que les eaux passent à côté, et même finalement passeront en dessous de cet ouvrage, et il ne pourra plus jouer son rôle. Cela rentre dans ce que nous avons dit tout à l'heure, qu'il ne suffit pas d'installer les ouvrages, il faut également les entretenir. Les entretenir pas seulement à l'intérieur de l'ouvrage, mais entretenir également les environs de l'ouvrage pour que l'ouvrage puisse son rôle. Mais à ce moment, nous arrivons également à une technique qui est toute simple et pour laquelle nous voulons vraiment faire la promotion. Et il est un peu dommage que nous ne trouvons pas suffisamment d'oreilles pour nous entendre. C'est la technique du bétillère.
Excusez-moi, Monsieur Guy, avant de parler de cette technique, il est temps de nous délibérer. Il y a un dernier auditeur qui est en ligne, c'est Jean-Pierre qui nous appelle de Kananga. Et puis on va revenir sur vous pour répondre, vous allez répondre à sa préoccupation également, parler de cette technique pour planter le vétiver. Jean-Pierre, vous nous appelez de Kananga. Bonjour Jean-Pierre.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Jean-Pierre, c'est Marcel, on vous écoute.
Ok, je voudrais donner ma modeste contribution par rapport au sujet.
Oui.
J'interviens dans des mouvements associatifs de la société civile, proprement dans le cadre des infrastructures. Je voudrais aussi contribuer que ce qu'il y a comme cause d'érosion, bon. Ici, chez nous, par exemple, il y a le manque d'entretien des ouvrages de la canalisation. Des constructions anarchiques peuvent être aussi à la base d'érosion. La non-canalisation d'eau et puis une canalisation non adaptée. Et puis, lorsqu'on ne tient pas compte du type du sol, du milieu, je pense que ça peut aussi entraîner beaucoup d'érosion. Merci
Jean-Pierre d'avoir appelé du Kananga. Étienne Kalema, là, on va prendre le tout dernier auditeur, en tout cas, c'est Gilbert. Il y a un gars qui nous appelle de Lubumbashi, il sera vraiment le tout dernier. Gilbert, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, c'est Rigobert, je salue tous les auditeurs de la radio qui nous suivent en ce moment.
Bon, d'accord.
Je salue d'abord la prouesse de nos intervenants, parce que je les ai intégralement suivis. Je suis étudiant à la Polytechnique à Lubumbashi.
Oui.
Comme il s'agit des érosions dont on parle, on a des fois sur une ville montagneuse telle que Likasi, là où la ville est tellement montagneuse, la question que l'on se pose, c'est pour lutter, c'est sur le point de la lutte contre les érosions.
Oui.
Précisément, Likasi, il y a trop de montagnes maintenant, cela pose problème tant aux agriculteurs que nous-mêmes qui devons investir. Ça me pose des questions. Quelle est la masse qu'on peut mettre pratiquement sur l'exercice pour que nous puissions lutter contre les érosions causées précisément par la pluie?
Merci à Rigobert d'avoir appelé de Lubumbashi. On va retrouver notre invité avec qui nous parlons de comment lutter contre les érosions. Guy Bungubichi, voilà, on vous retrouve. En tout cas, on va conclure avec ces deux intervenants. Il y a d'abord Jean-Pierre. En tout cas, lui, il a évoqué, hein, il est revenu sur le cause que vous avez cité, qui sont à la base de toutes ces érosions dans à travers les pays. Il a même également parlé des constructions anarchiques. Et enfin, Rigobert, qui lui a cherché à savoir ce dont on parlait déjà sur comment lutter efficacement contre les érosions. Guy Bungubechi.
Oui, je salue l'intervention de Jean-Pierre à partir de Kananga. Et il y a effectivement les constructions anarchiques qui sont à la base de l'érosion. Et également, nous l'avons dit avant, les canalisations mal adaptées. C'est souvent des canalisations sous-dimensionnés ou mal orientés qui ne permettent pas d'évacuer les eaux le plus rapidement possible sans créer des dégâts collatéraux. Pour revenir à ce que Rigobert
de Lubumbashi dit à propos de Likasi, qui est une ville montagneuse, eh bien, nous l'avons dit, le phénomène d'érosion s'installe quand on ne prend pas des dispositions au départ, lorsque on dénude un sol, soit pour construire des habitations, soit pour construire d'autres ouvrages, d'autres équipements d'utilité publique ou personnelle. Et dans les cas des villes montagneuses, à sol argileux ou enfin de n'importe quel type de sol, même quand le sol est sablo-argileux, comme celui d'ici à Kinshasa pour la plupart des quartiers, les dispositions doivent être plus rigoureuses dans ces cas. Ces dispositions doivent venir en amont. C'est-à-dire que quand on notifie un terrain, on doit absolument installer, avant même qu'on ne laisse la population construire ses maisons, on doit absolument installer des ouvrages de lutte anti-érosive. Et les ingénieurs doivent être là au départ. Ils savent quels sont les plus abondantes qui arrivent et qu'on sort, et comment dimensionner ces ouvrages. C'est un travail qui doit se faire en amont. Et on doit absolument éviter que un citoyen quelconque construise en dehors de normes qui permettent de contribuer à la lutte contre les érosions. Avant de construire quoi que ce soit, nous devons obtenir une autorisation de bâtir.
Tout à fait, c'est très important, oui.
Cette autorisation de bâtir, sa délivrance doit tenir compte également de ce genre de considérations. Il est dommage que bien souvent les autorisations de bâtir ne s'obtiennent que dans un quartier où enfin les gens qui les octroient ne prennent pas en compte la lutte préventive contre les phénomènes d'érosion.
Voilà Guy, on va maintenant terminer avec cette technique hein, de comment planter le vétiver. Si vous voulez dire quelques mots rapidement par rapport à cela.
Oui, en dehors donc de la lutte préventive qui consiste à installer des ouvrages pour la lutte contre les érosions,
oui.
Quand un phénomène d'érosion s'est déjà installé, il y a une autre technique qui permet de le stopper, voire même de l'éradiquer quand nous n'avons pas déjà atteint des limites dramatiques. Il s'agit de la lutte contre les érosions par le phénomène la pente qu'on appelle vétiver.
Oui.
Eh bien, autant un ouvrage en béton placé dans le sens perpendiculaire ou dans le sens contraire de l'écoulement des eaux peut freiner les eaux, autant également le vétiver peut constituer une haie qui empêche ou qui réduit la vitesse d'écoulement des eaux. Mais le vétiver, par rapport aux ouvrages en maçonnerie ou autres types d'ouvrages, a l'avantage de coûter relativement moins. Il coûte moins cher. C'est juste des souches de vétiver qu'on implante et qui sont placées perpendiculairement au sens d'écoulement des eaux, donc au sens d'écrasement du ravin, et qui, cette haie donc, reçoit le choc de la masse d'eau qui s'écoule, ralentit la vitesse de cette masse d'eau. Et quand la vitesse est ralentie, il y a deux phénomènes qui se passent. Le premier, c'est que les eaux ne continuent plus à creuser. Le deuxième, c'est que les eaux déposent les particules qu'elles emportent dans leur écoulement. Et quand ces particules se déposent, eh bien, elles contribuent graduellement à combler ces trous que les mêmes eaux ont creusés. Voilà pourquoi nous proposons cette technique et lutte contre les érosions par le phénomène de vétiver, qui est facile à comprendre, facile à appliquer, et qui a des résultats très efficaces. Du fait que les particules se déposent face à la haie de vétiver, fait qu'à cet endroit, le niveau du sol progressivement monte. Et quand le niveau du sol monte, ben, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le collet, c'est-à-dire la partie de la pente qui se situe entre le sol et la partie aérienne, monte aussi avec la montée donc du niveau du sol. Et l'avantage qu'il y a dans ce comportement du vétiver est que à ce moment, on n'a pas besoin de venir réinstaller une nouvelle haie de vétiver comme on le ferait dans les cas où on implanterait des matériaux en maçonnerie, par exemple. Les matériaux en maçonnerie, un ouvrage en maçonnerie, oui, est inerte.
ils restent là et après un moment, ils peuvent être dépassés par le phénomène d'érosion et les eaux peuvent le contourner. Et on a souvent vu les cas où l'ouvrage placé pour barrer les eaux, pour empêcher le creusement, mais se retrouve lui-même finalement emporté par le phénomène d'érosion.
Voilà.
Ça n'arrive pas avec le vétiver.
Voilà. Ça, c'est très intéressant. On comprend avec cette plante, le vétiver. On pense bien peut-être organiser une prochaine émission juste pour expliquer à la population ces techniques naturelles de lutter, de stopper le glissement du sol en cas d'érosion. Merci beaucoup à Guy et à Bungubechi. Nous rappelons que vous êtes ingénieur agronome. Avec vous, on a parlé de comment lutter contre les érosions. Vous êtes également directeur de l'ONG Agir Alternatif. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Je vous remercie aussi de vous avoir permis de porter encore une fois à notre public cette technique que nous souhaitons vraiment vulgariser le plus vite possible vu les dégâts que les érosions causent chaque jour à travers le pays.
Merci beaucoup, au revoir.